Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
En réalité, mon premier rêve aurait été d'être styliste de mode. Sauf que mon père m'a très vite fait changer d'avis. c'est très mignon, mais voilà. Mon prochain rêve serait de faire des études dans le droit. D'ajouter cette corde à mon arc parce que je travaille beaucoup avec des juristes et leur métier me passionne. J'étais assistante chef de produit dans une banque.
D'accord.
Et mon année scolaire a été payée par l'entreprise et j'étais payée moi aussi chaque mois. J'avais un salaire qui tombait chaque mois. J'avais tous les avantages de l'entreprise.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Safiya Telal, des études notamment en marketing, management et communication, de l'ambition, du hard work et l'effort finit toujours par payer. Elle est actuellement manager dans un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie et les paiements. Elle lance aussi Mama Talk. Safiya Telal, bonjour, ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Karima, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Bah, tout le plaisir est pour moi. Safiya, alors déjà on commence par un petit flashback en quelque sorte. Comment est-ce que tout a commencé sur le plan professionnel? Les premiers pas dans l'univers pro, comment ça s'est passé? Voilà, c'était quoi? Ça consistait en quoi? Etc.
Au départ, j'avoue que je ne savais pas du tout quoi faire. Je trouve que c'est très dur de demander à des adolescents, je ne sais pas, de choisir ce qu'ils vont faire quand ils auront 30 ans. Vraiment, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences économiques et gestion, sans réellement savoir ce que je voulais faire. En réalité, mon premier rêve aurait été d'être styliste de mode. Sauf que mon père m'a très vite fait changer d'avis. c'est très mignon, mais voilà. Du coup, j'ai pensé directement à faire une école de commerce. Je n'ai pas fait de classe préparatoire. J'ai fait une école de commerce marocaine pendant 3 ans pour avoir un bachelor qui me permettait de passer exactement le même examen que toutes les personnes qui ont fait des classes préparatoires et ont primé pendant 2 ans sans dormir. J'ai eu de la chance. J'ai passé le même concours et j'ai eu les mêmes écoles. Donc ça, c'était très bien. Mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis, en école de commerce, il y a les stages. Et les stages permettent beaucoup d'avoir une vision sur ce qu'on aimerait faire ou pas. Au départ, mes stages se sont beaucoup faits au Maroc. Et ça m'a permis de un peu voir ce que j'aimerais faire ou pas. Et plutôt, quel métier j'aimerais faire ou pas. Pas spécialement l'entreprise, mais quel métier j'aimerais faire ou pas.
Et justement, parlant de stage, Safiya, vu qu'on est en train d'en parler actuellement, est-ce que justement vous encouragez les jeunes justement peut-être à se donner plus dans leur stage? Parce que des fois, on remarque que voilà, les stages, c'est juste, comme on dit, la fin d'un cursus, on essaye de l'ajouter à notre année d'études. Ou, voilà, on ne donne pas forcément tout des fois dans un stage, on ne fait pas très attention aux détails, ce qu'on aime, la réflexion dont vous venez de parler.
Absolument. En fait, les stages... aujourd'hui, moi, je recrute des consultants. Et quand un consultant junior arrive qui n'a pas d'expérience, ben moi, je vais poser des questions sur ses stages. Et on remarque vite, mais vraiment très, très vite, ceux qui ont eu des stages où ils ont appris des choses, où ils ont réellement travaillé, et ceux qui ont eu des stages qui étaient des stages, en fait, de présence. La faute, moi, je la vois pas sur les étudiants eux-mêmes, mais plutôt sur les personnes qui les encadrent. Parfois, on a des personnes qui en fait, n'en ont rien à faire d'avoir un stagiaire.
C'est vrai.
Et qui vont pas lui donner le temps pour lui apprendre des choses, lui apprendre le métier, lui expliquer comment ça se passe, quitte à lui expliquer juste comment on répond à des emails de manière professionnelle, à l'emmener à des réunions pour qu'il puisse voir comment on gère.
Ne serait-ce qu'en observation, c'est
réunion.
Vrai.
Exactement. Et pour moi, ce n'est vraiment pas la faute de l'étudiant. C'est les personnes qui les encadrent, et c'est souvent j'entends ça, c'est je vais avoir un stagiaire, moi j'ai pas le temps pour lui, fallait pas le recruter.
C'est vrai, c'est vrai.
Lui laisser le temps d'aller voir ailleurs. Mais les stages, c'est extrêmement important parce qu'au moment où on va devoir trouver un vrai travail en CDI, on n'aura que les stages pour nous vendre.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour moi, les stages, c'est extrêmement important de chercher un stage, de faire l'effort de le chercher soi-même. Ça aussi, ouais, c'est très important. Les stages, plus c'est long, mieux c'est. Les stages de 1 mois, 2 mois, on n'a pas le temps de voir. On fait juste des allers-retours.
Exactement.
Un stage de 3 mois, un stage de 6 mois, c'est extrêmement, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi, les stages, ça m'a beaucoup apporté. J'ai eu des stages qui se sont extrêmement bien passés. C'était extra, et j'ai eu des stages qui étaient juste l'enfer sur terre, où je pleurais chaque jour, mais c'était du vrai travail. J'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est sûr et certain.
C'est un mal pour un bien, finalement. Même si c'était un petit peu galère, au final, on apprend quand même.
Exactement.
Ne serait-ce que sur le plan humain, des fois, parce que
absolument,
quand on fait des études, on n'est pas vraiment confronté à ces petites sociétés dans les entreprises, etc., les caractères des gens, comment s'imposer sans être un petit peu prétentieux, il y a plein de trucs qu'on essaye de régler. Et ça, je pense que les stages, c'est la meilleure opportunité pour faire ça, ne serait-ce que sur le plan humain, arriver à travailler avec des gens malgré leur caractère et tout. Je pense que c'est aussi une école dans ce sens.
Exactement, ça permet vraiment d'épanouir sa personnalité, de voir comment on se comporte avec les autres, ce qui nous plaît ou pas, comment s'imposer. Comment parler aux autres, savoir avec qui parler de quelle manière. Après, en parlant de stage, en France, il y a à part le stage, il y a ce qu'on appelle l'alternance. C'est l'entreprise qui va payer tes études. Donc, payer ton année scolaire qui coûte 7 000, 8 000, 10 000 euros, parfois même plus. Et te payer aussi, puisque tu es salarié chez elle. On te paye chaque mois. Bien sûr, l'État apporte des aides aux entreprises pour pouvoir prendre des alternants. Alternants. Tu es en CDD pendant 1 an sur un poste et en même temps, tu as tes études à côté. Donc moi, j'étais assistante chef de produit dans une banque.
D'accord.
Mon année scolaire a été payée par l'entreprise et j'étais payée moi aussi chaque mois. J'avais un salaire qui tombait chaque mois. J'avais tous les avantages de l'entreprise et pendant 1 an, tu es au cœur, tu es vraiment dans l'entreprise. Là, tu travailles pour de vrai. Tu as des vraies missions, tu as des objectifs à atteindre et très très souvent, l'alternance à 80% se termine par une proposition de CDI et donc la possibilité de rester en tant que salarié confirmé dans l'entreprise. Les années d'alternance sont assez difficiles d'un point de vue organisation puisque très souvent on a soit 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise ou 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Chaque école l'organise comme elle veut. Mais au final, on en ressort avec une année complète d'expérience ou parfois 2 ou 3 années selon les années auxquelles on commence l'alternance. Et ça permet vraiment de sortir avec une expérience presque complète. Et souvent, on sort avec un travail derrière. Ce qui m'est arrivé.
Voilà, justement, moi-même. J'allais vous dire ce qui s'est passé pour vous, justement.
Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Au bout de 6 mois d'alternance, on m'avait déjà proposé un CDI qui devait commencer 6 mois après. En avril, moi, j'avais déjà signé pour un job qui devait commencer en octobre de la même année, mais je n'avais pas encore eu mon diplôme. C'était en 2014-2015. Et j'étais étudiante à l'université Paris 2 à Sas. Et je pense que c'est un vrai tremplin qui évite la recherche d'emploi, qui peut être très, très stressant.
Justement, ouais. C'est beaucoup plus fluide, moins stressant.
Absolument.
Aussi.
C'est beaucoup, beaucoup moins stressant. Ça évite cette recherche de travail. Surtout quand on est étudiant à l'étranger et qu'on a 6 mois pour trouver un job.
Ouais, c'est beaucoup plus compliqué.
Tous les étudiants ou tous ceux qui sont passés par là vont comprendre. Tu as 6 mois pour trouver un travail et parfois trouver un travail, ça dure beaucoup plus que 6 mois. Donc l'alternance, c'est vraiment un très bon tremplin pour pouvoir avoir une longue expérience qui est très valorisée, puisque les gens, ça apporte, ben, on sait que tu sais t'organiser, puisque tu as les cours, donc les examens, tous les travaux à faire pour les cours à préparer, un mémoire à faire, en plus du travail qui, en fait, c'est un vrai travail, tu n'es pas du tout en stage, tu es là pour bosser, donc tu as des réunions à faire, tu as des projets à livrer, tu as des choses à faire, et en fait, tu ressors avec une expérience, une capacité de travail qui est énorme, tu es organisé. En fait, il n'y a que du positif pour moi. Tu étais payé pendant ton année.
Ça aussi.
Tu n'as pas payé ton année.
Ça aussi, c'est très bien. Soyons honnêtes.
Exactement.
C'est un avantage.
Vraiment, je trouve que ça pourrait apporter beaucoup, beaucoup s'il y avait ça au Maroc. Je pense vraiment que ça pourrait être un vrai, vrai plus pour les étudiants qui, en sortie d'école ou d'université, ne savent pas quoi faire, ne savent pas où chercher, qui chercher, parce que souvent... Ben, le travail, il existe, mais il faut savoir où le chercher. C'est vraiment très, très bien. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai tremplin de savoir que je peux compter sur moi-même, que je n'ai pas besoin que mes parents cherchent pour moi un job ou un travail ou un stage. C'est vraiment, ça n'apporte que du positif.
Bien sûr, ça forge aussi la personnalité, au final, Safia.
Exactement. Et pour la petite anecdote, mon mari, qui est de formation avocat, à 38 ans, il a décidé de changer de spécialité. Et il faisait du pénal avant, c'était pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. Il a décidé de faire de la protection de données et de la cybersécurité. Et bien, il a arrêté de travailler pour faire un an d'alternance.
Excellent.
À 38 ans, on venait d'avoir notre premier enfant. Et vraiment, il était ravi de faire ça à cet âge-là. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'à chaque âge, on peut complètement virer de bord et changer.
C'est vrai.
Mais en ayant la possibilité de le faire, c'est ce qui est important. Parce que quand on se retrouve cantonné dans un travail, on se dit « Ok, si je reprends tout dès le début, ce ne sera pas du tout mon vrai salaire. » Mais en fait, en 3 ans, il était déjà revenu au même niveau qu'avant. Mais ça a été un vrai tremplin pour lui. Il a pu faire une grande école, une très bonne école, faire une alternance dans un cabinet de conseil.
Excellent.
Et complètement virer de bord à 38 ans.
Bah oui, c'est possible.
C'est possible à n'importe quel moment de la vie.
Très important de souligner ça aussi, parce que voilà, c'est pas être dans une carrière ou dans une entreprise, c'est pas une fatalité. On peut toujours, il faut juste qu'on se donne les moyens de le faire et que ça soit un choix plutôt réfléchi, qu'il y ait une préparation en amont. Parce que je pense que tout claquer comme ça sur un coup de tête, quand on a des responsabilités et tout, ben c'est beau, mais ce n'est pas possible. Voilà, il y a des responsabilités, il y a des charges et tout. Voilà, c'est la vie qui nous rattrape en fait. Quand on est peut-être plus jeune et qu'on n'a pas de responsabilité, pas d'attache, le saut est beaucoup plus simple. Parce qu'on se dit au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Ben rien. Voilà, c'est pas grave, c'est une expérience, c'est un échec, un apprentissage. Mais quand on a des charges, une famille derrière et tout, je peux comprendre que la réflexion soit beaucoup plus complexe. Voilà, mais c'est possible, c'est très très possible.
Exactement.
Même. Voilà. Avec un peu de préparation, on peut y arriver. Safia, vous êtes actuellement, vous êtes dans un cabinet de conseil. Quelle est votre mission dans ce sens ? Dans la stratégie de paiement, parce que moi-même, j'aimerais bien en apprendre un peu plus à ce sujet.
Alors, ça fait 2 ans que je travaille dans un cabinet de conseil en stratégie des paiements et en monétique.
D'accord.
Alors, dit comme ça, on ne comprend rien. Et j'avoue que moi-même, il y a deux ans,
c'est pour ça que là, je me dis, moi aussi, comme les personnes qui nous écoutent, j'aimerais savoir en quoi ça consiste.
Moi aussi, au départ, je ne savais pas.
Ah, je croyais que c'était maintenant. Moi aussi, maintenant, je ne comprends pas. Mais j'aime bien.
Je ne savais pas de quoi il s'agissait.
Ouais.
J'ai commencé à ma carrière par travailler dans les assurances. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans les assurances jusqu'à une année où j'étais chef de produit carte bancaire dans une banque. Et suite à ça, après une petite pause pour m'occuper de mon fils, en reprenant le travail, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir du côté des cabinets de conseil. Les cabinets de conseil, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Ça n'a rien à voir avec être interne dans une entreprise, quelle qu'elle soit. C'est une charge de travail qui est énorme, des clients à gérer. Mais c'est un travail qui apporte une grande expertise sur plein de sujets différents.
Ouais.
Moi, je fais du marketing et ma mission consiste à... donc, on a des clients,
mm-hmm.
on est sur des missions ponctuelles auprès de clients. Les missions peuvent aller de 3 mois à 3 ans.
D'accord.
Ou même plus parfois.
Mm-hmm.
Et chaque client va venir nous voir pour quelque chose de spécifique. Typiquement, moi, en mission, j'ai été chez une banque qui voulait lancer un nouveau produit bancaire. Et moi, je vais arriver pour faire une vision du marché.
D'accord.
Voir ce qui se passe sur le marché, où se situent leurs produits. Qu'est-ce qu'ils devraient ajouter ou enlever de leurs produits.
Mmh.
On va réfléchir à la stratégie marketing, comment on va sortir le produit, qui seront nos clients cibles, vers qui on va essayer de se tourner pour mmh. qu'ils prennent ce produit-là. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une application bancaire, une nouvelle carte bancaire, un nouveau produit de crédit.
D'accord.
Ça peut être vraiment... plein de sujets, mais mmh. toujours relation avec la banque ou l'assurance. Ça peut être un nouveau produit d'assurance.
Mmh.
Y a plein de produits pour couvrir son téléphone en cas de casse, pour couvrir son ordinateur.
Mmh.
Enfin, ça peut être... la mission va être de vraiment être là pour faire le produit de bout en bout. Donc, dès la réflexion,
d'accord.
on réfléchit au produit, mmh. comment ça va se passer. Au moment de le sortir, et bien sûr, tout ça, on ne le fait pas tout seul, parce qu'il y a plein d'équipes. Donc, on va réfléchir du côté financier avec mmh. les financiers, du côté juridique avec les juristes. Et en fait, on va tous essayer de sortir à la fin un produit qui pourra être commercialisé en agence bancaire, sur
d'accord.
Internet. Là aussi, on va réfléchir à comment le vendre.
Voilà, bah là c'est beaucoup plus clair. Là je comprends très bien. Safiya Talal, et cette fois Mamatok.
Oui.
Allez, parlez-nous un petit peu plus de ce chapitre en quelque sorte, ou voilà, de ce projet tout simplement.
C'est Mamatok, c'est un projet personnel, ou même je dirais peut-être une passion.
Mmh.
En 2020, pendant le confinement, toutes les mamans qui avaient des petits-enfants, et même celles qui en avaient des grands,
mmh.
galéraient un peu à la maison avec leurs enfants. Et puis mon fils avait 2 ans, et moi je sortais de 2 années de brouillard, où c'était assez dur pour moi, l'après-accouchement, le postpartum, c'était vraiment très dur. Je me sentais très seule ici, loin de ma famille. C'était pas très joyeux.
Mmh.
Et je me suis dit qu'il devait certainement y avoir d'autres mamans qui vivaient la même chose que moi.
Mmh.
Et il y en a beaucoup.
Ouais, c'est sûr.
Et, des mamans qui sont loin de chez elles, qui se sentent seules, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ont besoin d'être entourées. Et l'histoire Mamatalk a commencé comme ça. Au départ, je faisais des lives sur Instagram pour mm-hmm. Raconter un peu. On parlait de nos accouchements, du retour au travail, comment ça se passait. Petit à petit, ça s'est développé.
Mm-hmm.
Ça m'a permis de présenter une émission web pour une grande chaîne de télé. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de mamans et de un peu créer une communauté très soudée de mères. On se rencontre une fois par mois à Paris.
D'accord.
Et on est souvent assez nombreuses. Donc il y a un petit groupe de mamans marocaines et algériennes. C'est assez mélangé, mais c'est vraiment une communauté qui se ressemble.
Mm-hmm.
On se rencontre à Paris une fois par mois. Certaines viennent avec leurs enfants, avec leurs bébés. Et pendant tout un après-midi, on discute, on rigole, on pleure. C'est
très thérapeutique.
C'est incroyable. C'est très thérapeutique, mais vraiment.
Ouais.
Je dis souvent aux mamans, écoutez, moi j'ai créé Mamatalk de manière très égoïste, parce que j'avais besoin de raconter, de me raconter, de me livrer.
Mmh.
Et finalement, j'ai plein de copines qui veulent aussi raconter. Et du coup, derrière, il y a eu un groupe, il y a une communauté sur WhatsApp,
mmh.
Où il y a plus de 370 mamans. Un jour, 370 000, pourquoi pas.
Oui, lapsus
cas,
révélateur.
Pour le moment, on est 370, ce qui est assez, ce qui est beaucoup aussi.
Bien sûr, et surtout pour un groupe WhatsApp, hein, c'est quand même beaucoup.
Oui,
c'est très bien.
Et on échange beaucoup. Le groupe est divisé en plusieurs thématiques.
Mm-hmm.
On échange sur des thématiques en relation avec les enfants ou pas. Hein. On parle tout aussi de vêtements, ce qu'on va acheter, ou de coloration pour les cheveux que de bébés et comment où trouver tel produit pour organiser l'anniversaire de mon enfant.
C'est
vraiment c'est incroyable. Et puis la communauté est très présente. Et on se rencontre, et pour moi le vrai win, c'est vraiment le fait qu'on puisse se rencontrer une fois par mois.
Ouais.
On est parfois 5 et des fois on a été 30. Mais c'est juste incroyable le fait de se rencontrer. On est toutes des mamans expatriées, on est loin de nos familles, et ça crée vraiment on se sent entouré.
Ouais. C'est une communauté bienveillante. Ça, c'est très important aussi, c'est avoir cette bienveillance autour. Voilà, chaque maman essaye de faire de son mieux, et c'est bien d'avoir justement ces communautés qui vous rappellent que c'est tout à fait normal.
Exactement. Ça fait beaucoup de bien.
Et c'est quoi la suite, Safiya? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le prochain objectif, un rêve à concrétiser, ça serait quoi?
Mon prochain rêve serait de faire des études dans le droit, d'ajouter cette corde à mon arc, parce que je travaille beaucoup avec des juristes et leur métier me passionne.
D'accord.
Donc j'aimerais beaucoup faire du droit des affaires et le faire en même temps que mon travail. Ça va être un peu hard, mais on va le faire.
Je n'en ai aucun doute.
De pouvoir faire un master en droit des affaires ou en droit bancaire pour pouvoir m'ouvrir plus un champ sur d'autres métiers, toujours peut-être en relation avec ce que je fais aujourd'hui, dans la banque, l'assurance, dans le métier du conseil, pourquoi pas. Mais d'avoir ça en plus, et que Mama Talk grandisse encore et encore, et qu'on soit beaucoup plus de mamans à chaque fois, à se retrouver, à échanger.
Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, Safiya Tellal. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation,
merci
d'avoir
Karima,
partagé votre histoire. C'était vraiment très sympa, et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.